dans la diffusion de l'humanisme et dans la diffusion de la réforme qui va suivre. Et c'est maintenant à la réforme que j'aimerais venir. C'est en effet dans ce contexte extrêmement troublé que va commencer à agir un homme qui est Martin Luther. Martin Luther est né en 1483 en Saxe, hein, c'est la région, pour ceux qui ne le savent pas, entre Berlin et la République tchèque actuellement, hein, donc c'est le sud de Berlin avant la République tchèque, donc c'est l'ancienne Allemagne de l'Est. Luther a surtout vécu dans ce qu'on appelait l'Allemagne de l'Est. C'est un fils de mineur, donc qui a fait fortune, et donc son père veut l'envoyer faire des études de droit, parce qu'il veut que son fils prenne l'ascenseur social, si vous voulez, pour le dire comme ça. Et Luther, au fond, n'est pas très favorable à cette idée. Et en 1505, il commence des études de droit, mais quelques semaines après le début de ses études, il est pris dans un violent orage. Et au moment de cet orage, il prie Sainte Anne. Sainte Anne, c'est la mère de Marie, c'est la grand-mère de Jésus, en lui disant « Sainte Anne, si tu me délivres de cet orage, je me fais moine ». Malchance ou bonheur, il sort de l'orage et donc, deux semaines plus tard, il entre au couvent. Et on lui reconnaît bien vite des qualités théologiques extrêmement fortes, donc on va le nommer professeur de théologie à l'université de Wittenberg, où il va commencer d'enseigner la Bible. Il est ce qu'on appelle professeur de Bible, comme on le dit à l'époque. Donc il commente le texte biblique, l'Ancien d'ailleurs, comme le Nouveau Testament. Il va commenter les psaumes, l'Épître aux Romains, etc. Mais parallèlement, disons, à cette carrière universitaire, Luther est confronté à une question centrale. Et cette question centrale, c'est celle de son salut. Et comme beaucoup de gens à cette époque-là, je vous l'ai dit, Luther se préoccupe pour son salut. Or, que dit, en gros, l'Église à cette époque-là? C'est qu'on est justifié devant Dieu, et on peut espérer donc le salut, si on pratique les œuvres que recommande l'Église. C'est-à-dire, au fond, si on pratique un certain nombre de sacrements et d'autres choses, dont les indulgences, dont je vais vous parler tout à l'heure. Et donc Luther estime qu'en fait il n'en fait pas assez. Plus il essaye de pratiquer les bonnes œuvres, plus il essaye de mortifier sa chair, plus il essaye d'être pur, pour le dire ainsi, plus il se rend compte qu'il n'y arrive pas. Et il en vient à dire « Je percevais Dieu comme un Dieu méchant, comme un Dieu qui, plus j'en faisais, plus ce Dieu risquait de me punir. » Et il revient sur cette expérience, et le changement qui va intervenir dans sa réflexion et dans sa foi, en 1545, donc dans la préface à ses œuvres latines, et il raconte cet événement. « Or moi qui, vivant comme un moine irréprochable, me sentais pécheur devant Dieu, avec la conscience la plus troublée, et ne pouvais trouver la paix par ma satisfaction, je haïssais d'autant plus le Dieu juste qui punit les pécheurs, et je m'indignais contre Dieu, nourrissant secrètement, sinon un blasphème, du moins un violent murmure. » Donc, il se sent en conflit avec Dieu. « Jusqu'à ce qu'enfin, Dieu ayant pitié, et alors que je méditais jour et nuit, je remarquais l'enchaînement des mots de saint Paul, donc il lit sa Bible, et il lit l'Épître aux Romains, où il est écrit, à savoir, « La justice de Dieu est révélée en lui, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et ça, c'est une référence au livre d'Habacouc. Et Luther comprend que, je continue la lecture, « La justice de Dieu est celle par laquelle le juste vit du don de Dieu, à savoir de la foi, et que la signification était celle-ci. Par l'évangile est révélée la justice de Dieu, à savoir la justice passive, terme technique en théologie à cette époque-là, on peut passer dessus, par laquelle le Dieu miséricordieux nous justifie par la foi, selon qu'il est écrit le juste vit de la foi. Alors je me sentis un homme né de nouveau et entré les portes grandes ouvertes dans le paradis même. » Que découvre Luther à ce moment-là? C'est que, en fait, ce que Dieu attend, ce n'est pas qu'on pratique des œuvres, que l'on pratique la mortification, etc. C'est que l'on ait juste foi en lui. Autrement dit, ce que Dieu attend pour Luther, hein, c'est que l'on ait confiance en lui et que l'on croit en sa grâce. C'est-à-dire que pour Luther, ça va être un changement majeur et ça va marquer la tradition protestante, c'est pas dans ce qu'on fait que l'on trouve grâce aux yeux de Dieu, c'est dans le fait que l'on croit, que l'on ait confiance en lui. Le reste, dit Luther, découle de cette foi. Et donc, ça va le conduire petit à petit à remettre en cause toute la théologie de son époque. Et ça va en particulier le conduire à remettre en cause une pratique qui se fait à cette époque-là, c'est ce qu'on appelle les indulgences. Alors, qu'est-ce que c'est que les indulgences ? Pour faire bref, disons que les indulgences, c'est ce qui vous permet d'éviter un certain nombre de peines une fois que vous serez mort. Parce que dans la façon dont on se représentait le salut au Moyen-Âge, vous aviez ceux qui avaient de la chance et qui allaient au paradis, et ceux qui n'en avaient pas et qui allaient en enfer. Seulement, le problème de cette division paradis-enfer, pour les théologiens du Moyen-Âge, c'est qu'elle est un peu brutale. Hein. À partir de quand est-ce que vous allez au paradis ou à partir de quand est-ce que vous allez en enfer ? À partir de combien de bouteilles de vin en trop vous allez en enfer ? Et à partir de combien de pommes volées vous allez en enfer ? Au fond, c'est ça le problème hein, qu'on se pose.
Parce que c'est très pratique.
C'est très pratique. Donc, les théologiens au Moyen-Âge en viennent à la conclusion qu'il doit forcément y avoir une solution. Et c'est pour ça qu'au XIIe siècle, des théologiens de Paris, c'est à Paris que c'est inventé, vont inventer ce qu'on appelle le purgatoire, en disant qu'il doit y avoir un lieu intermédiaire où ceux qui ne sont pas des saints, mais qui ne sont pas d'affreux scélérats, entrent pour un temps après leur mort, où ils effectuent des peines, ils sont un peu torturés, mais pas trop, et à la sortie de ce purgatoire, ils peuvent aller au paradis.
C'est au
XIIe
siècle.
C'est au XIIe siècle, vers 1190. C'est une théologie. La première fois qu'apparaît le paradis sous la plume d'un théologien, c'est un théologien qui s'appelle Pierre le Mangeur, qui est un théologien de l'école cathédrale de Notre-Dame de Paris, parce qu'à l'époque, il y a une école à côté, une université, ou une préfiguration plutôt de l'université. Et ce théologien, pour la première fois, utilise l'expression purgatoire.
C'est-à-dire que dans la Bible, on ne parle jamais
de purgatoire. Disons, ils vont chercher, et il y aura des choses qui vont leur permettre d'y trouver quelque chose. Mais le terme purgatoire n'existe pas dans le texte biblique. Ça, c'est sûr que ça n'apparaît pas dans le texte biblique. Vous allez voir pour la suite, c'est un peu la réaction des réformateurs. Et donc, progressivement, va émerger l'idée que ces peines que vous devez effectuer... Si vous voulez une belle illustration de ce qu'est le purgatoire au Moyen-Âge, il faut lire l'Enfer de Dante. Vous avez l'Enfer et puis après le purgatoire. Et le purgatoire, d'ailleurs, il est habité par des gens tout à fait respectables, comme le poète latin Virgile, hein, qui est celui qui accueille Dante quand il visite le purgatoire et qui le guide à travers le purgatoire. Et donc, progressivement, à partir du XIIe siècle, va émerger l'idée que ce purgatoire, vous pouvez raccourcir le temps que vous y passez si vous faites un certain nombre de pratiques. Alors, par exemple, on va dire, si vous partez pour la croisade, ça vous réduit votre purgatoire. Si vous faites un pèlerinage, ça vous réduit votre purgatoire. Et puis, à la fin du XVe siècle, la papauté, ayant besoin d'argent, va finir par dire, mais au fond, plutôt que de demander aux gens de faire des choses, on pourrait aussi leur vendre des papiers qui leur permettent d'abréger leur temps au purgatoire. C'est ce qu'on appelle l'indulgence, qui est une pratique qui existe toujours dans l'Église catholique, qui a été réformée suite à la réforme, mais qui existe toujours. Il y a eu en 2000, pour le jubilé, une nouvelle offre d'indulgence. Alors ça ne se vend plus, bien évidemment, mais au XVIe siècle, ça se vend. Et ça va en particulier se vendre à partir de 1516, quand le nouveau pape à Rome, Léon X, décide de reconstruire la basilique Saint-Pierre, parce que l'ancienne basilique se casse la figure, et il décide de la reconstruire, et pour ça il a besoin d'argent. Et donc la basilique Saint-Pierre de Rome, si vous la visitez, dites-vous toujours que c'est à cause de ça que la réforme a débuté. Et donc il va chargé donc un certain nombre de personnes en fonction des régions d'Europe d'aller vendre des indulgences. Et il faut imaginer ce que c'est, hein, une vente d'indulgence. C'est un véritable cortège. Donc ce sont des artistes, des acteurs qui jouent des pièces pour illustrer la nécessité des indulgences pour se sortir du purgatoire. Et ce sont surtout des prédicateurs. Et vous avez un vendeur d'indulgences en Allemagne qui est très connu à cette époque-là, qui s'appelle Tetzel, T-E-T-Z-E-L, qui va vendre des indulgences avec un slogan, je vous le dis en allemand, après je vous le traduis. Tetzel disait « Wenn das Geld in der Kasse klingt, die Seele ins Himmel springt ». Quand l'argent tombe dans la caisse, l'âme s'envole au ciel. Hein. Donc l'idée c'est, si vous voulez sortir du purgatoire, eh bien, il faut acheter des indulgences. Et ça, Luther, qui vient de découvrir que le salut se fait par la foi, et pas par ce qu'on fait, et encore moins par ce qu'on achète, va s'attaquer à cette pratique. Et cette pratique, il va s'y attaquer dans ce qu'on appelle les 95 thèses, qu'il publie en octobre 1517, pour ça que l'année prochaine, on fête le demi-millénaire de la Réforme. Hein. En octobre 2017, ça fera 500 ans que Luther a fait ça. Et ces 95 thèses, ce sont une critique virulente, on ne peut pas plus, disons, virulent, de cette pratique des indulgences. Pourquoi ? Parce que Luther voit ses paroissiens, parce qu'il est également prêtre, il est moine mais il est aussi prêtre, il voit ses paroissiens parfois ne pas manger pendant une semaine pour se payer une indulgence. Il faut voir que c'est le prix d'une indulgence pour un ouvrier à cette époque-là, c'est un quart du salaire mensuel. Donc Luther, dans ce texte, va prendre des positions théologiques, spirituel, mais aussi social. Ça, on l'oublie un peu, mais il y a un certain nombre de ces fameuses 95 thèses qui disent, plutôt que de ne pas nourrir vos enfants pour acheter une indulgence, nourrissez-les. Et de toute façon, qu'est-ce que demande Dieu de vous ? C'est que vous ayez confiance en lui. Pas que vous fassiez toutes sortes de choses, et surtout pas que vous alliez acheter des bouts de papier. Parce que, en plus de ça, l'Église avait pris l'habitude de dire que certaines indulgences autrefois distribuées n'étaient plus valables. Donc si vous aviez hérité d'une indulgence, il fallait en racheter. Et donc Luther s'attaque finalement à ce qu'on peut considérer comme un véritable business.
Mais c'est pas possible,
ce que vous racontez. En gros, si, c'est ça.
C'est comme les logiciels Microsoft.
C'est comme les logiciels Microsoft. Il y a une obsolescence programmée. Voilà. Ah ben, c'est comme ça que ça marche.
Les gens d'aujourd'hui qui ne connaissent pas l'histoire, c'est possible, sinon ils
Bon, excusez-moi. Ben, disons, il faut alors juste peut-être préciser une chose, c'est que cette pratique, à l'époque, est en décalage, et ça c'est un élément important, est en décalage avec la théologie officielle. C'est-à-dire que la théologie officielle des indulgences, du droit canon, dit que l'indulgence doit être précédée de ce qu'on appelle les regrets et une pénitence. C'est-à-dire que si vous voulez avoir acheté une indulgence, il faut d'abord que vous confessiez vos péchés, que vous regrettiez amèrement, et ensuite de quoi on vous vend votre indulgence. Donc à l'origine, c'est pas juste j'achète et puis c'est bon. Mais ceux qui vendent des indulgences, on leur dit pas faites ça pour le salut des gens, on leur dit, et ça c'est évident, faites ça pour vendre. Et donc du coup, bah, les gens, ils laissent les prédicateurs d'indulgence laissent un peu de côté la théologie officielle pour juste vendre leurs marchandises.
Et cet argent, il va à l'église.
Cet argent va à l'église pour construire la basilique Saint-Pierre.
Ah, oui, c'est ça.
Et l'indulgence se met à l'église vraiment par...
C'est un papier. Voilà, oui,
aujourd'hui,
tout à fait.
On peut
ah oui, tout à fait. Vous en avez de nombreuses
à
la basilique Saint-Pierre, mais aussi vous avez des gens qui en ont encore dans leur famille. Et d'ailleurs. C'est une pratique qui a continué, qui a été réformée, mais ça existe toujours. Hein. L'indulgence, ça ne s'achète plus, j'insiste là-dessus, mais ça existe toujours. Ah ben aujourd'hui, ça peut se faire, alors je ne suis pas spécialiste de la pratique actuelle, mais ça existe encore sous la forme de pèlerinage, par exemple.
Donc il y a des portes jubilaires.
C'est des portes jubilaires, exactement.
Ce dimanche, vous pouviez encore aller donc, à la cathédrale d'Argenteuil.
Ah oui, c'est vrai, il y en a encore.
Vous pouvez exposer la sainte tunique qui est attribuée au Christ, la dernière tunique que Christ portait à la fin de sa vie avant la Passion. D'après la tradition, hein. Et donc il y avait le passage d'une porte, une porte de la cathédrale qui vous valait donc des indulgences, comme il y a une porte jubilaire qui est ouverte sur Saint-Pierre de Rome actuellement. Voilà, il y a des portes jubilaires un peu partout dans le monde. Voilà, parce qu'il y a un jubilé qui a été le jubilé de la miséricorde.
Voilà,
qui est joué par. Ce que dit monsieur, c'est que c'est à Argenteuil cette année, vous pouvez encore aller.
Depuis dimanche.
Voilà. Désolé.
Voilà, le vortex est refermé.
Ah oui, ça s'ouvre la porte, bon, que c'est
vraiment. Voilà, donc ça existe toujours, mais ça ne se vend plus.
Ouais. Disons que c'est maintenant relié à une réactualisation de la doctrine du jubilé.
C'est ça. Voilà. Et donc un parcours de spiritualité.
De remise de la dette. Voilà. On reprend en fait les textes qui traitent de ces questions-là dans l'Ancien Testament en particulier. Donc il y a eu toute cette campagne pour la remise de la dette des pays. Des pays pauvres à l'an 2000, donc pensé par Jean-Paul II.
Mais le théologien protestant, puis après on termine là-dessus, le théologien protestant se demande toujours si effectivement le salut se monnaie, cette fois entre guillemets, par une pratique ou bien par la réalité de la foi. La question continue de se poser. Hein. Pour le jubilé de l'an 2000, il y a eu plusieurs théologiens protestants qui ont repris la plume pour dire oui, certes, ça a été réformé, mais enfin, est-ce que la pratique elle-même est légitime du point de vue théologique ?
Quelle est l'efficacité de la pratique ?
Quelle est l'efficacité de la pratique ?
Le financement, parce que j'imagine que le pape, s'il avait dit tout simplement tout se passera bien si vous m'aidez à reconstruire la basilique, les gens auraient donné de l'argent sans.
Certainement pas autant. Et puis il faut voir que, bon. Le pape avait d'autres sources de financement. Hein. Je veux dire, il y a une autre source de financement à l'époque, c'est la vente des reliques. Ça fonctionne très bien aussi. Hein. Un tibia de Saint Matthieu, un peu de lait de la Vierge, un bout de la Sainte Croix, et ça se vend.
Le lait de la Vierge ?
Ah oui, ça existe, oui, tout à fait. Ça existe toujours, d'ailleurs. Et c'est un véritable trafic. Dont les réformateurs, d'ailleurs, vont se moquer. Calvin, dont je vous parlerai si j'ai le temps, a écrit dans les années 1540 un traité des reliques, dans lequel il liste toutes les reliques qui existent, et il dit, mais si on mettait ensemble toutes les reliques du lait de la Vierge, on nourrirait 10 000 nourrissons, si on mettait tout ensemble tous les morceaux de la Sainte Croix, on reboiserait toute une région de France, enfin, si on mettait bout à bout toutes les tuniques du Christ, on pourrait sans aucun doute habiller la moitié de la population de Paris, enfin, donc il va y avoir une ironie, évidemment, sur cette question. Vous comprenez en tout cas, puis ça me permet de revenir à mon texte, pourquoi la réaction à Luther va être si virulente. Parce que même si Luther est théologiquement en ordre, si vous voulez, par rapport à sa critique des indulgences, certains théologiens catholiques du XXe siècle, comme Erwin Isserloh, bien Monseigneur Yedine, qui ont analysé le texte de Luther, ont réussi à montrer que par rapport à la théologie officielle des indulgences, il est en règle. Mais le problème, c'est qu'il s'attaque à un business. Et donc, cette attaque au business de l'Église va entraîner ce qu'on appellera le procès de Luther, au bout duquel, en 1521, Luther va être excommunié. Ainsi dit la bulle papale qui l'excommunie, que tous ceux qui le suivront. C'est-à-dire que nous autres protestants, à l'heure actuelle, nous sommes toujours sous le coup de cette excommunication du Saint-Siège. Et en 2011, le pape Benoît XVI s'est rendu en Allemagne, sur les lieux où a vécu Luther, en particulier à Erfurt, On lui a demandé s'il avait l'intention de lever cette excommunication, et la réponse du Saint-Siège a été très claire, c'est non. Donc les protestants, comme Luther, sont toujours officiellement excommuniés, ce qui est une des raisons, enfin une des questions, disons, qui habite la réflexion écuménique aujourd'hui.
Mais si le Saint-Siège disait « Ok, on vous réintègre », est-ce que vous voudriez être réintégré?
Ah bah ça dépend où et quoi et comment. Personnellement, je trouve que la question est disons intéressante. Savoir disons enfin qu'est-ce qu'on fait de cette excommunication. Après, il y a un deuxième problème, c'est que depuis 5 siècles, finalement les deux églises ont évolué parallèlement et elles sont actuellement dans une logique de rapprochement. Alors longtemps, ce qu'on a appelé l'écuménisme, c'est-à-dire le rapprochement entre catholiques et protestants, avait pour but de refaire l'unité. Aujourd'hui, on est plus dans une logique qui admet que ces traditions catholiques et protestantes se sont développées chacune de leur côté, avec leurs spécificités. Et que ces spécificités, finalement, sont aussi des richesses, parce qu'on a à apprendre les uns des autres. On a chacun nos charismes, pour le dire comme ça. Et donc la logique aujourd'hui écuménique, c'est plus tellement de refaire l'unité, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, mais c'est plutôt de dire comment est-ce qu'on peut être véritablement en communion. Donc il ne s'agit pas de dire que demain, l'Église protestante unie de France et l'Église catholique vont fusionner. De toute façon, on est à des niveaux différents déjà, hein, puisque les églises protestantes sont réparties pays par pays, il n'y a pas d'Église protestante universelle. Donc déjà là, ça pose plein de questions, mais c'est plutôt de voir comment finalement les deux églises peuvent être en communion. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, moi, je n'ai pas le droit, officiellement, de prendre l'Eucharistie à la messe.
Vous faites ?
Ah non, parce que moi, je respecte mes frères catholiques. Et surtout, je ne veux pas que le prêtre qui sert la messe ait des ennuis à cause de ça. Parce que actuellement, le droit canon prévoit qu'un protestant peut prendre l'Eucharistie à condition que ce soit... Attendez, il faut que je me rappelle, il y a 3 conditions. La première de ces conditions, c'est que le protestant en question croit à la présence réelle du Christ dans la scène. Alors déjà, ça, c'est pas gagné parce que tous les protestants n'y croient pas. J'en reparlerai tout à l'heure. Ensuite, il faut que le protestant n'ait pas d'autre occasion, d'autre possibilité de prendre la scène dans sa propre église. À Paris, vous avez 60 paroisses protestantes, on ne peut pas dire que ce soit le cas. Et il faut que, troisièmement, ce soit une occasion extraordinaire. Donc, que ce ne soit pas répété de manière régulière. Et cette occasion extraordinaire, en principe, elle doit être validée par l'évêque. Donc, ça fait quand même beaucoup de conditions. Ce qui fait que c'est possible. Par exemple, si vous êtes protestant, vous assistez à un service funèbre catholique au moment duquel on sert l'Eucharistie, vous êtes en principe autorisé à communier, surtout si c'est les membres de la famille. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc en principe, non, moi je ne le fais pas. Est-ce qu'on célèbre l'Eucharistie au moment de mariage? Alors ça, je...
Par contre, l'Eucharistie, je pense, mais il y a toujours la question normalement de l'autorisation.
C'est ça.
Express. Alors, on a un point de. C'est une discussion qui me touche personnellement, parce que ma femme, le père de ma femme est calviniste.
Et étudiant dans cette maison.
Voilà. Absolument, c'est l'un de vos plus jeunes étudiants.
C'est ça.
Le dominicain qui est chargé des recommandations sur ces questions-là auprès de la France, des évêques et des prêtres qui sont devant sur ces questions-là, nous a dit en réalité, au fond du fond, entre mari et femme, ça fonctionne si, au-delà de l'autorisation de l'évêque, si quand vous entendez le canon de la messe, la bénédiction eucharistique, vous êtes d'accord sur les points qui sont cités dans la bénédiction de l'eucharistique, la bénédiction du pain.
C'est ça. Donc ça, c'est encore un cadre spécifique.
Je voulais savoir s'il y avait même une distinction à ce niveau-là sur l'accès à entre les luthériens et les calvinistes, parce que je connais...
Oui, alors justement, c'est, Ça tombe bien, c'était mon point suivant, la controverse sur la scène. Juste, donc, si vous êtes d'accord, je continue, je réponds à votre question. Donc, le mouvement que Luther a lancé, qui se termine par l'excommunication en 1521, va avoir un succès énorme, hein, puisque ses écrits vont se répandre. Bien évidemment, Luther, il faut le préciser, je tiens à souligner ça, quand il lance sa controverse contre les indulgences, il ne veut pas créer une nouvelle église. Son but, c'est juste de réformer l'Église dans laquelle il est et qu'il aime passionnément, hein, comme il le dit. Et son souci, bien sûr, quand il remarque que l'Église ne veut plus de lui, c'est de savoir comment il va faire. Et il va le faire en écrivant un certain nombre de textes pour réformer l'Église. Et un de ces textes s'attaque justement à la compréhension des sacrements de l'Église médiévale. Et Luther dira, il faut que les sacrements, c'est-à-dire le pain et le vin, hein, qui sont les éléments pardon, des sacrements, ce qu'on appelle donc l'Eucharistie, la scène, soient distribués à tout le monde. Dans l'Église médiévale, et encore souvent dans le catholicisme aujourd'hui, le fidèle ne reçoit que l'hostie, c'est-à-dire le pain, mais le vin est réservé aux prêtres. Luther dira, ça c'est fini. Ce qui fait que dans les églises protestantes, vous recevez les deux. Il va s'en prendre aussi à l'idée que la messe est une répétition du sacrifice du Christ. Parce que dans la tradition médiévale, et c'était lié à l'autorité du prêtre, l'Eucharistie que vous preniez, c'était une répétition par le prêtre du sacrifice de Jésus-Christ. Ce qui fait qu'il fallait qu'il y ait un prêtre qui le fasse. Et encore aujourd'hui, dans la tradition catholique, l'Eucharistie ne peut être célébrée que par un prêtre qui est ordonné. Un fidèle ne peut pas, comme ça, le faire. Luther va abandonner cette idée-là en disant « il y a eu un seul sacrifice, c'est celui du Christ, il a eu lieu une fois. Nous, nous ne faisons que commémorer ce sacrifice. » D'où l'idée qui va émerger chez Luther, c'est que, finalement, chaque fidèle, en cas d'urgence, peut administrer les sacrements. Il n'y a pas besoin que ce soit une personne, en l'occurrence le prêtre, ordonné, qui ait ce seul privilège. Luther dira, si des chrétiens chavirent en haute mer et arrivent sur une île, ben ils ont le droit, puis qu'il n'y a pas de prêtre, ils ont le droit de célébrer la scène, ils ont le droit de célébrer des baptêmes si le besoin s'en fait sentir. Et ça va être à l'origine de ce que Luther va appeler le sacerdoce universel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de distinction entre les prêtres et les laïcs. Et avec ça, tout l'édifice de l'Église médiévale, où vous passiez par les prêtres et la hiérarchie via le pape pour obtenir le salut, s'effondre. Luther dira seulement, il y a des gens qui sont appelés à prêcher, à donner ces sacrements, et ce sont les pasteurs. Mais ces pasteurs ne sont pas différents dans leur essence, dans leur être profond, des autres, de ce qu'on appelle les laïcs. Donc le protestantisme, s'il y a bien des pasteurs, ne connaît pas de distinction, comme l'Église catholique, entre les clercs, c'est-à-dire les prêtres, et les laïcs. Et alors, bien sûr, cette critique de la scène, elle va être poursuivie par un théologien qui s'appelle Ulrich Zwingli, vous l'avez ici, qui lui sera le réformateur de Zurich. Et alors, Zwingli va avoir un débat avec Luther, et c'est là que la réforme va éclater, si vous voulez, entre différents courants. Parce que Luther continuait de croire à la présence réelle du Christ. Pour Luther, quand vous mangiez l'hostie, quand vous buviez le vin, vous communiez vraiment au sang et au corps du Christ. Le Christ est présent dans les éléments pour Luther, comme dans la tradition catholique. Simplement, il n'utilise pas l'explication qui était celle de la tradition médiévale. Eh bien, Zwingli lui dira, tout ça c'est des âneries. Quand on communie, quand on prend le pain, quand on prend le vin, c'est un symbole, point barre. Hein, et vous avez ce texte ici, que le corps du Christ, c'est-à-dire son corps naturel, soit présent par essence et dans la réalité, dans la scène, que nous le mangions de notre bouche ou de nos dents, comme l'affirment les papistes, les catholiques, et ceux qui jettent leur regard en arrière vers les marmites d'Égypte, hein, référence à Exode 16:3, quand les Israélites quittent l'Égypte et qui regardent en arrière parce qu'ils préfèrent finalement être en esclavage et manger plutôt que d'être libres et d'avoir faim. Donc ça, ils s'attaquent à Luther en disant tu regardes encore en arrière, maintenant il faut regarder en avant. Cela, nous ne nous contentons pas de le nier, mais nous affirmons fermement que c'est une erreur qui contrevient à la parole de Dieu. Et donc, contrevenir à la parole de Dieu, pour Zwingli, c'est clairement une marque d'hérésie. Donc, entre protestants, dès 1530, vous allez avoir des accusations d'hérésie qui, par la suite, vont aboutir à une scission du camp protestant. Et c'est comme ça que vous allez avoir d'un côté les luthériens et de l'autre côté les réformés. Et aujourd'hui encore, enfin aujourd'hui encore en France, ça n'est plus le cas, mais jusqu'en 2013, en France, vous aviez deux églises. Vous aviez les protestantes, à part les églises évangéliques, qui est un autre sujet, mais vous aviez l'église réformée de France et l'église luthérienne de France. Et là, il a fallu 500 ans, un tout petit peu moins, pour que ces deux églises puissent se rapprocher, puisqu'en 2013, elles ont fusionné en France. Donc, les réformés et les luthériens sont maintenant dans une seule église en France, qui est l'église protestante unie de France.
Et c'est qu'en France ou partout ?
Alors, ça arrive de plus en plus, parce qu'en 1973, un accord a été signé au niveau des représentants, disons, mondiaux des deux confessions. Ce qu'on appelle la concorde de Leuenberg, pour dire nous pouvons maintenant comprendre cette question-là de la même façon.
Justement, ils m'accompagnent comment ? C'est quand même... Qu'est-ce qui a
séduit ? Ah ben, ni l'un ni l'autre. Tout au contraire, comme on dit en Suisse. Disons, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que la réponse... C'est Calvin qui l'a déjà donné au XVIe siècle. C'est-à-dire que pour Calvin, il y a présence du Christ, mais c'est une présence spirituelle. C'est-à-dire qui est donnée par le Saint-Esprit. On n'est pas dans la présence matérielle du Christ dans les éléments, dans le pain, dans le vin, mais on n'est pas non plus dans le pur symbole. Il y a une présence, mais qui ne passe pas par les éléments. Passe par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le texte en question, ici, c'est autre chose que je vous montre, mais c'est Calvin, justement, va essayer de trouver une solution pour rapprocher Zwingli et Luther, mais les luthériens n'en voudront pas. Et donc, il restera du côté des réformés, alors que théologiquement, il était sans doute plus proche de Luther. Ça, c'est la première scission. Et puis alors, l'autre scission, c'est celle de ce qu'on appelle la réforme radicale, les anabaptistes, qui, eux, vont estimer que Luther, que Calvin, que Zwingli ne sont pas allés encore assez loin. Qu'il faut incarner maintenant le royaume de Dieu prêché par le Christ dans les évangiles. Et l'idée, il y a plusieurs idées, si vous voulez, chez les anabaptistes. On les appelle les anabaptistes, c'est une insulte à l'époque, ça veut dire qu'ils pratiquent le rebaptême. Pour les anabaptistes, le baptême, en effet, c'est un acte de confession. C'est quand vous vous sentez prêt à adhérer à l'évangile que vous décidez de vous baptiser. Or, la tradition, depuis le 5e siècle, baptise tout le monde enfant. Il n'y a pas de baptême d'adulte. Et eux vont retourner à l'idée qu'il faut se baptiser adulte. Mais ce qui va surtout les marquer, c'est leur opposition au pouvoir politique. Ce que la réforme de Luther ne faisait pas. Luther a travaillé avec les politiques, comme Calvin, comme Zwingli. Mais les anabaptistes, eux, diront, au fond, le pouvoir politique, c'est le royaume de ce monde. C'est le royaume, pas du diable, mais enfin de la corruption, de l'humanité, du péché. Et donc, il faut rompre avec cette organisation politique pour fonder une église qui soit en même temps l'incarnation du royaume de Dieu. Et bien évidemment, quand vous dites ça, vous ne vous faites pas des amis chez les princes, chez les autorités politiques. C'est pour ça que les anabaptistes vont être persécutés par les protestants comme par les catholiques. Là, vous avez une image qui représente Zurich au XVIe siècle, à l'époque de Zwingli, le monsieur que je vous ai montré avant, qui a beaucoup combattu les anabaptistes. Et qu'est-ce qu'on leur fait aux anabaptistes ? Eh bien, on leur dit, vous êtes, par votre doctrine, rebellés contre l'autorité politique, votre doctrine est hérétique, vous allez donc périr par là où vous avez péché. Donc, vous voulez vous rebaptiser, eh bien, vous serez noyés. Et donc, les anabaptistes ont été persécutés, noyés, parfois brûlés aussi. On ne lésine pas sur les différentes possibilités.
Et là, c'était les catholiques et les protestants.
Ah oui, confondus.
Ensemble.
Oui. Enfin, pas ensemble, mais ils ont fait la même chose.
Ouais. Qu'est-ce que je veux dire ? Alors, par exemple, les catholiques, c'était le... Enfin, je ne sais pas si c'était un Saint-Siège à l'époque, mais c'était le
Pape. Oui, le Saint-Siège, oui.
Et les protestants, c'était qui ? Puisque vu qu'il n'y a pas une autorité...
Alors, attention, les catholiques, c'est jamais l'Église elle-même qui exécute. Au Moyen-Âge, il y a cette idée que Ecclesia aboret sanguinem, l'Église a horreur du sang. Donc en général, la pratique, c'est que l'Église condamne pour hérésie qu'elle transmet l'hérétique à ce qu'on appelle le bras séculier qui exécute la sentence. Donc c'est toujours le pouvoir civil qui exécute, c'est jamais l'Église. Les protestants ne feront pas autre chose. Vous pouvez avoir des pasteurs, des théologiens qui disent « Oui, ben, ce que dit ce monsieur, c'est de l'hérésie. Très bien, voilà, on vous le passe, et puis faites-en ce que vous voulez. » Là, c'est le pouvoir politique qui fait ça, qui agit. Mais quand on condamne, on sait très bien ce qu'on fait. Donc là, le résultat est le même. Et là, chez les protestants, comme je vous l'ai dit, ce sont des pasteurs, des théologiens qui jugent, et puis ensuite, on transmet au pouvoir politique, qui en l'occurrence est bien content, parce que ces gens-là contestent leur autorité. Par exemple, les anabaptistes disaient « on n'a pas le droit de prêter serment à l'autorité politique, parce qu'on ne doit pas jurer devant Dieu, si ce n'est pour Dieu lui-même, on ne doit pas pratiquer le serment ». Or, à cette époque-là, on est à une époque où le serment, c'est ce qui fait la base de la société. Il n'y a pas, à une époque où vous n'avez pas de code civil, pas de constitution, etc., ce qui fait que vous obéissez aux autorités, c'est que vous leur prêtez serment. Or, quand vous avez un anabaptiste qui dit « Non, moi, je prête serment qu'à Jésus-Christ », c'est un séditieux potentiel, c'est un traître potentiel. Donc, du coup, on l'élimine. Et on l'élimine d'autant plus que la plupart de ces anabaptistes, il y a des exceptions, mais que la plupart de ces anabaptistes vont être des défenseurs acharnés de la non-violence. C'est-à-dire qu'ils vont refuser de s'engager dans l'armée, ou dans les armées de l'époque. Et là aussi, c'est un problème, parce que si tout le monde commence à renoncer à s'engager dans l'armée, vous êtes embêté. Et donc, ce mouvement va être persécuté. Donc là, je vous ai mis un texte d'une confession de foi anabaptiste de 1527, qui parle justement de la non-violence. Et donc les anabaptistes, donc il faut le dire, il faut le savoir, continuent aujourd'hui d'exister. C'est ce qu'on appelle les Ménonites. Et c'est très intéressant parce que moi je donne un cours à l'Institut catholique sur l'histoire de la Réforme et on est trois. On est un enseignant catholique, un enseignant protestant et un enseignant anabaptiste. Alors le catholique, quand il arrive, est plutôt, je fais partie de l'expérience personnelle, et plutôt sur ses réserves en se disant « Oui, bon, vu que je représente ceux qui ont fait toutes les bêtises, je me tiens à carreau. » Le protestant lui arrive très satisfait de ce qu'on a fait, et puis du fait qu'il y a quand même eu beaucoup de victimes protestantes. Et puis après arrive l'anabaptiste qui lui rappelle très, très posément et très gentiment que les protestants aussi ont persécuté. Donc voyez, il y a toujours une... Donc c'est intéressant comme expérience parce qu'on est toujours la victime d'un autre. Et on est aussi toujours le bourreau d'un autre quand on représente une tradition.
C'est qui la victime des anabaptistes ?
Je ne sais pas s'ils en ont, mais il faut chercher, peut-être qu'on en trouvera.
C'est dans le massacre de la Saint-Barthélemy, est-ce qu'on a réussi à voir de quel protestant il s'agissait, si c'était des anabaptistes, si c'était...
Oh, des anabaptistes en France, il n'y en a quasi pas, au XVIe siècle. Non, ça ne se développe pas. Aujourd'hui, il y en a, mais c'est très limité. L'anabaptisme est un mouvement qui se manifeste surtout en Allemagne du Sud et en Suisse. Moi, mon arrière-grand-mère était anabaptiste, elle était ménonite. C'est un mouvement en Suisse qui ensuite s'est développé aux Pays-Bas et qui ensuite a beaucoup émigré aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y a une branche anabaptiste, disons, fondamentaliste, qui au XVIIIe siècle va se former, ce sont les Amish. Les fameux Amish, c'est une branche de l'anabaptisme qui au XVIIIe siècle va au fond se bloquer sur ses pratiques vestimentaires, de vie, et refuser toute forme de progrès. Mais ça reste des gens fondamentalement non violents, et ils vont être à l'origine des anabaptistes de tous les mouvements de non-violence au XXe siècle, hein, et surtout d'objecteurs de conscience. Et en Suisse encore, jusqu'à aujourd'hui, les anabaptistes sont objecteurs de conscience. Donc ils refusent de faire leur service militaire. Et jusque dans les années 90, en Suisse, moi j'en ai connu encore, si vous étiez objecteur de conscience, vous alliez passer 6 mois en prison. Hein. Vous refusiez de faire votre service militaire en Suisse, il y a 25 ans encore, vous faisiez 6 mois de prison. Donc moi, j'ai des connaissances anabaptistes à peine plus âgées que moi qui ont fait 6 mois de prison.
Mais ils sont mélangés avec les criminels ?
Non. Enfin, ils étaient, ça se fait plus. Hein. Mais non, c'était des traitements assez agréables, c'était une formalité. Et comme il y en avait chaque année, on savait très bien que... Voilà. Mais c'était de la détention, hein. il n'y a pas à tortiller là-dessus. Donc ça vous montre que ces gens-là, encore jusqu'à il y a très peu de temps, étaient pas forcément mal vus, mais disons, on peut le dire, persécutés pour leurs convictions. Hein. Donc c'est un élément important.
On a mis un nom sur le luthérien, c'est Luther. Sur le réformé, c'est Ludwig
Zwingli.
Et les anabaptistes ?
Oh, ben vous avez toute une série d'auteurs. Il n'y a pas vraiment de chef, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Les luthériens et les réformés non plus, il y a des figures qui ressortent. Alors, les anabaptistes, il y a deux personnes, c'est deux Zurichois. C'est un certain Konrad Grebel et un certain Felix Manz. Et ces deux-là, l'un va mourir, je ne sais jamais lequel des deux, je crois que lui meurt en prison en 1527, des suites des mauvais traitements, et lui, c'est lui qui est là.
Voilà. Qui meurt noyé.
Mais le grand théologien du mouvement anabaptiste, c'est un certain Balthasar Hubmaier, qui est très étudié justement par mon collègue Ménonite, avec qui je donne ce cours, qui est lui, c'est vraiment l'intellectuel, parce que c'est un universitaire, c'est un ancien prêtre, un théologien, donc c'est lui le penseur. Les deux autres, disons, c'est des leaders, mais ce ne sont pas des intellectuels. Hubmaier, ce sera l'intellectuel du mouvement, et lui, alors, ne va pas être noyé, il sera brûlé en 1528, mais en Autriche, par les catholiques. Celui-là, ce n'est pas nous. Oui.
Une question rapidement. Qu'est-ce qui incite à l'époque à se convertir à l'anabaptisme, sachant le risque que vous prenez ?
Ben, ce qu'il y a, je crois, alors ça pose plus largement, je dirais, la question du succès de la réforme. Pourquoi ça a marché ? Et ça, c'est lié à différents facteurs. Il y a le facteur de l'imprimerie, ça c'est la diffusion, ce qui n'était pas possible avant. Et puis, l'autre chose qui fait ça, ben, au fond, c'est la faute de Luther, fondamentalement. Parce que Luther, et ça, j'avance un peu, c'est ce que je voulais vous dire là. Si vous voulez, je vous reparlerai de Calvin un autre moment. Lorsqu'il est convoqué, à un moment donné, peu de temps après son excommunication, Luther est convoqué à Worms devant l'empereur. Et en gros, l'empereur lui dit, soit tu révoques ce que tu as dit et t'as la vie sauve, soit je te mets au banc de l'Empire. Être mis au banc de l'Empire, c'est quoi ? Ben, si vous me permettez, c'est une déchéance de nationalité. C'est-à-dire que vous n'êtes plus un citoyen, sauf qu'à l'époque, ne plus être un citoyen, ça implique, à la différence d'aujourd'hui, qu'on peut vous tuer sans que la personne qui vous tue soit ennuyée pour ça. Parce que vous n'existez pas. Donc Luther, il risque sa vie. Et au moment de comparaître devant l'empereur, il refuse de révoquer ce qu'il a dit. Et il a cette phrase, « À moins d'être convaincu par le témoignage de l'Écriture et par des raisons évidentes, car je ne crois ni à l'infaillibilité du pape, ni à celle des conciles, puisqu'il est établi qu'ils se sont trompés et contredits, je suis lié par les textes bibliques que j'ai cités. » Et vous avez surtout la fin, « Tant que ma conscience est captive de la parole de Dieu, je ne puis ni ne veux rien rétracter, car il n'est ni sûr ni salutaire d'agir contre sa conscience. Que Dieu me soit en aide. » Il aurait ajouté, mais ça c'est apocryphe, c'est ce que dit le texte ici en allemand. « Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helf mir. » Donc je suis ici, je ne peux pas autrement. Donc c'est cet appel à la conscience. Luther est le premier à utiliser le mot en allemand. Avant c'est un mot latin, conscientia. Lui c'est le premier qui utilise le mot allemand Gewissen pour dire la conscience. Et cet appel à la conscience, qui est lié au fond à la question du salut à cette époque-là, hein, c'est décider maintenant. Est-ce que vous êtes pour l'ancien système? Est-ce que vous êtes pour Luther? Est-ce que vous êtes... Enfin, c'est pas pour Luther, mais est-ce que vous adhérez à la foi nouvelle? Il en va de votre salut. Et donc, quand les gens doivent choisir, c'est pas juste un peu comme aujourd'hui, quand on choisit idéologiquement ce qui nous convient mieux dans le supermarché des religions. Hein. C'est vraiment, c'est mon salut. Est-ce que je vais rôtir en enfer ou bien est-ce que je vais m'en sortir? Et il y a cet appel à la conscience. Et donc chacun est censé lui-même individuellement décider. Donc c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui préfèrent partir sur le bûcher parce qu'ils savent qu'ils ne rôtiront pas en enfer plus tard. Voilà.
Ils préfèrent rôtir ici.
Ils préfèrent rôtir ici plutôt qu'en enfer. Et ça, c'est récurrent. Enfin, au XVIe siècle, on en est convaincu. Donc c'est cette dimension-là, l'appel à la conscience individuelle, la question du salut, mais aussi une doctrine que Luther va avancer, qui est ce qu'on appelle le sacerdoce universel, dont je vous ai parlé. Parce que quand Luther dit qu'il n'y a plus de différence entre les prêtres et les laïcs, que tout le monde finalement est toutes les personnes sont égales devant Dieu, ça veut dire que tout le monde, justement, est appelé à prendre au sérieux la question de son salut, et pas à la donner à quelqu'un à qui il fait confiance, mais c'est à chacun. Et en disant ça, Luther, bien sûr, pensait que tout le monde allait faire comme lui, c'est-à-dire lire sa Bible et adhérer à ce que lui, il y lisait. Seulement, il y en a d'autres qui lisaient autre chose. Et ça vous montre un problème qui est courant dans les religions, c'est comment vous interprétez, et puis ça vous l'avez vu et vous le verrez encore, j'imagine, c'est comment vous interprétez le texte sacré. À l'époque, Luther est sûr que le texte sacré, il dit ce que lui pense. Et puis tout à coup, vous avez un Zwingli qui lève la main puis qui dit « Moi, je ne suis pas d'accord sur la Sainte Seine. » Après, vous avez un anabaptiste qui dit « Ah oui, mais si tu lis le texte biblique, il faut aller plus loin que ce que tu as fait. » Etc., etc. Et donc, ce principe-là, c'est ce qui va être à l'origine de l'explosion de tous les courants à partir du XVIe siècle.
Et Luther croit en l'enfer ?
Ah oui, oui, oui.
Il croit au purgatoire, tout.
Alors le purgatoire, il y a cru un moment, puis après, il a lu sa Bible et il s'est rendu compte que le mot n'existait pas et que c'était bien difficile de défendre la chose. Et donc, du coup, il a supprimé...
Donc, chez les protestants, il
n'y
a pas de purgatoire.
Non, et de toute façon, je vous dirais aujourd'hui la question de la représentation de l'au-delà dans le protestantisme, elle est très variable. Vous avez... parce que le protestantisme, bien sûr, a évolué dans ses théologies. Vous avez des protestants fondamentalistes qui disent « l'enfer et le paradis existent ». Puis à l'autre bout du spectre, vous avez ce qu'on appelle les protestants libéraux qui estiment que ce sont des âneries. Des histoires de bonnes femmes, comme on dirait autrefois. comme on disait autrefois. C'est très variable. C'est ça aussi qu'il faut relever, c'est que comme l'idée à l'origine, c'est de retourner au texte biblique, et comme on s'est aperçu à travers l'histoire que ce texte biblique, on pouvait l'interpréter de 10 000 façons, aujourd'hui, le protestantisme, tout le monde l'interprète de manière différente. Donc moi, si je dois dire finalement ce qui fait que je suis protestant aujourd'hui, c'est avant tout cette liberté-là qui est l'élément qui, moi, me motive à rester, si je puis dire, dans la tradition, d'interpréter le texte biblique.
Mais je suis catholique, je peux l'interpréter.
C'est-à-dire que, et c'est ce que Luther d'ailleurs a fait, vous avez le droit, en droit canon, hein, d'interpréter les points qui ne sont pas décidés par le dogme. Quand Luther s'attaque aux indulgences, il le fait parce que c'est un point qui n'a pas été tranché par le dogme. Aujourd'hui, c'est encore à peu près ça. Mais vous avez encore eu récemment des théologiens qui ont été embêtés dans l'Église catholique pour des positions qui ne convenaient pas à Rome. Hein, le fameux Hans Küng, par exemple, comment s'appelait-il là, le père récemment, Dupuis, qui est parti du Concile Vatican II pour dire finalement que toutes les religions avaient leur vérité, qu'il n'y avait pas d'absoluité du christianisme, ben lui, on l'a embêté. Enfin, donc, ça, dans le protestantisme, c'est pas possible. D'une part, parce qu'il n'y a pas d'instance dirigeante qui décide de ce qui est vrai ou de ce qui ne l'est pas, mais aussi parce que le protestantisme reconnaît cette pluralité de lecture du texte biblique. Et c'est un des points que je voulais souligner d'ailleurs en parlant de Luther. Bon, je voulais aussi montrer l'importance de l'aspect profondément antinationaliste du protestantisme, avec cette phrase ici de Martin Bucer, qui est le réformateur de Strasbourg, c'est le réformateur de la ville du Parlement européen, je trouve ça toujours très intéressant, qui dans une lettre dit à une de ses correspondantes, tu peux pas traiter les Français de criminels, parce que c'est une Allemande, et il écrit, que sont donc, je t'en prie, les Allemands, les Italiens, les Espagnols et tous les autres, en soi ils sont tous perdus, mais en Christ ils sont tous frères, et cela le Père ne l'a pas donné à certains ou à d'autres, mais c'est le propre de tous les peuples. Et donc le protestantisme, tout en relativisant les frontières entre laïc et clair, va aussi, d'une certaine façon, relativiser les frontières politiques. Il ne va pas les contester, mais il va aussi dire, devant Dieu, il n'y a pas de différence de nationalité, de culture. Il y a des hommes et des femmes.
Mais c'est ça, toutes les religions le disent, non ?
Oui, d'une certaine façon, mais là, disons, le protestantisme l'a revalorisé.
D'accord.
C'est ça que je veux, en Europe, c'est ça que D'accord. je veux dire.
C'est
biblique,
c'est
en tout cas. Hein.
C'est la suite ou la paraphrase de saint Paul. Hein. Il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni esclave, ni homme libre ni esclave, ni juif.
Et puis trop galate. Et alors, dernier élément, c'est une petite plaisanterie, mais pour vous montrer l'impact de la réforme, lorsqu'il écrit sa thèse de doctorat au début des années 70, Jean Jaurès s'interroge sur les origines du socialisme. Et pour lui, le premier socialiste, c'est Luther. Et il écrit... historiquement, c'est n'importe quoi, mais je trouve que le souci qu'a pu avoir Jaurès de se référer à Luther est intéressant de l'impact intellectuel qu'a eu la figure du réformateur, et je termine là-dessus. Quelle était cette égalité parfaite et absolue de tous les chrétiens prêchée par Luther ? C'est la disparition des laïcs soumis, des prêtres hautains, hein, cette fameuse distinction laïque-prêtre qui disparaît, s'arrogeant certains rapports particulièrement amicaux avec Dieu. Quiconque est chrétien, c'est-à-dire a été baptisé au nom du Christ, a plein droit de lire, de commenter et de prêcher les paroles divines. Ça, c'est ce que je vous disais juste maintenant. Tout chrétien est donc prêtre. Lorsqu'à une époque récente, le suffrage universel fut décrété en France, beaucoup trouvèrent cette politique trop téméraire et comme monstrueuse. Combien Luther était plus audacieux, lui qui décrétait le sacerdoce universel. Voilà. Je répète, historiquement, pas très fondé, mais ça vous montre l'impact qu'a eu à travers l'histoire cette période de la réforme, à tel point qu'un socialiste comme Jaurès a pu y voir une préfiguration. Et ce n'est pas le premier. Marx écrit des choses identiques. Alors, je n'ai pas pu vous parler de Calvin, je suis navré, hein, mais je vous laisse aussi ce texte que je trouve intéressant. C'est ce que je voulais souligner en deux mots, c'est le fait qu'avec Calvin, on voit se développer une compréhension de l'éthique qui est à géométrie variable. Au fond, ce n'est pas une éthique normative, une éthique chrétienne normative, mais c'est une éthique plus soucieuse de l'adaptation de grands principes à des réalités concrètes. Et là... il parle dans ce texte de la question de la coiffure des femmes, puisque au XVIe siècle, une femme devait porter des longs cheveux et bien sûr se couvrir la tête. Hein. Donc, dans ce texte, Calvin dit « Oui, effectivement, c'est bien qu'elle se couvre la tête, mais enfin, si la nécessité de son prochain la pressoit, c'est-à-dire si quelqu'un est en danger, tellement qu'elle n'eut le loisir de se coiffer, elle ne pêche en rien si elle a cour nu-tête pour lui aider. Donc c'est ce souci qui naît de cet appel à la conscience de Luther, qui chez Calvin débouche sur une éthique finalement de la responsabilité. Hein, au fond, c'est pas est-ce que je me coiffe ou pas parce qu'on me l'a dit, mais c'est qu'est-ce qui aide mon prochain. Et ça, c'est aussi un des éléments, disons, qui va être important dans la réflexion éthique protestante à partir de la réforme. Voilà, deux mots, hein, j'aurais pu vous en dire plus, bien sûr, sur Calvin, mais voilà. Et je laisse la dernière image à Joris.
Merci.
Ben, merci à vous. Je ne sais pas si... Finalement, ils sont allés dans la salle d'à côté, je crois. Non,
oui, ils sont à côté.
Voilà. Ah, j'ai vu des gens passer.
Ah, donc, oui. Donc, ah, ils ont... étaient dans cette salle.
Ben oui.
Voilà, j'ai eu un cadrage très précis.
Oui, moi aussi. Mais bon, visiblement, ils ont l'air de...
Voilà.
De tremper. Donc, si vous avez encore des questions, je suis à votre disposition.
J'ai une amie qui m'a parlé d'un livre de Stefan Zweig sur Calvin.
Oui. Alors, oui, alors c'est précisément la mauvaise lecture. Non, je vous ai en deux mots. Bon, Calvin, enfin, on pourrait en parler pendant des heures. C'est un des grands théologiens de la Réforme. Il a eu, disons, un tort qui a marqué sa biographie pour l'éternité. C'est qu'il s'est opposé à un monsieur qui s'appelle Michel Servet. Alors Michel Servet était ce qu'on appelle un antitrinitaire. De nouveau un de ces courants qui naît dans le sillage de la Réforme. C'est-à-dire que Michel Servet a lu sa Bible, comme Luther le lui disait, comme Calvin le lui disait, et en lisant la Bible, ben, il a découvert qu'en fait la Trinité n'apparaissait qu'une fois. Hein, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Or, depuis le 5e siècle, le 4e siècle, l'Église chrétienne, Orient comme Occident, s'est construite sur l'idée que Dieu était un, mais qu'à la fois il était trine, c'est-à-dire qu'il avait trois figures, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Or, Michel Servet dit, mais si je lis les évangiles, qu'est-ce qui se passe quand je lis l'évangile de Marc ? L'évangile de Marc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Jésus arrive au bord du Jourdain pour se faire baptiser par Jean-Baptiste, et à un moment donné, il y a une grande lumière qui descend sur lui, et une voix se fait entendre qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Alors vous pouvez lire ce « Celui-ci est mon fils bien-aimé » de deux façons. Soit vous dites que c'est... je crois qu'ils sont quand même là, alors, finalement... Bon, alors on va plier.
Juste une petite question pour faire de...
Ah, en fait, ils attendent.
Oh non, mais moi j'ai cru qu'ils étaient... On a cru qu'ils étaient partis.
L'église protestante de Suède, je pense, a pris une décision dernièrement. Permettant les mariages homosexuels dans les églises. En quoi est-ce que cela...
Je confirme que nous sommes priés de libérer.
D'accord.
Pourquoi ?
Aucun.
En quoi cela engage les autres églises protestantes à travers et l'Europe et...
Ah, ça n'engage pas les autres églises protestantes.
Donc, chaque église doit prendre sa décision concernant ce genre de...
Oui, c'est-à-dire que les églises protestantes ne... Ils n'ont pas de structure mondiale qui décide.
Comme les synagogues, c'est les châteaux.
Mais là, c'est un peu plus national. Par exemple, les protestants.